Fidèles auditeurs et auditrices de Studio Yafa, nous sommes très heureux de vous retrouver pour le Yafa Soir. Aujourd'hui, mardi, nous parlerons d'une école à Koudougou qui fait de l'éducation inclusive son cheval de bataille. Il sera également question de comment prendre le paracétamol. Dans cette émission, nous vous prions de garder votre position car devant ce micro, je suis Daniel Ouedraogo pour vous servir.
Bamtare, initiative.
À Koudougou, le complexe scolaire Saint-Augustin donne une seconde chance aux enfants vivant avec un handicap. Dans cet établissement du centre-ouest, ces enfants sont préparés à intégrer les classes classiques. Issouf Diallo y a fait un tour.
Mon grand-père.
Complexe scolaire Saint-Augustin de Koudougou, les élèves de la classe de CE1 sont en cours. Parmi la dizaine d'élèves en situation de handicap, Adama, nom d'emprunt, est en train de lire la leçon du jour.
Il a les dos courbés.
Depuis une dizaine d'années, cet établissement prépare les élèves en situation de handicap à intégrer le circuit scolaire dit normal, nous explique Vincent Zagré, chargé du suivi des élèves handicapés à Saint-Augustin.
Ici, les élèves que nous recrutons avec le handicap visuel, ils sont ensemble. Là, il n'y a pas d'intégration. Ils font 4 ans avec nous ici. Ils font d'abord la classe d'observation. C'est comme une classe maternelle. D'abord, pour leur apprendre le béaba de la chose, c'est la première année. Ensuite, il y a le CP1, le CP2 et le CE1. Voilà. Et après, maintenant, le CE1, nous les intégrons avec les voyants dans les différentes écoles classiques.
Vous avez des étrangers qui sont rentrés dans la classe. Qu'est-ce qu'on fait?
Enseignante des élèves malvoyants en classe de CE1 à Saint-Augustin depuis 2013, Solange Paré explique comment elle dispense les cours avec ses élèves.
Dans ma classe, j'enseigne toutes les matières excepté le dessin. Les livres sont imprimés en braille, ce qui est différent du classique où les livres sont en noir. Ils sont des malvoyants et des aveugles. Ils lisent avec les doigts. Je suis habituée aux enfants. Je sais comment les approcher. Et aussi, puisque je les mets en confiance au début de l'année scolaire, en confiance avec la maîtresse, donc chacun se sent à l'aise. Ils s'entraident pour bien travailler en classe. Quand un n'arrive pas à suivre, sans l'intervention de la maîtresse même, il y a un autre qui va élever la voix pour essayer d'expliquer à l'autre pour qu'il puisse suivre.
À Saint-Augustin, le système d'éducation inclusive rencontre quand même des difficultés à en croire le chargé du suivi des élèves handicapés, Vincent Zagré.
Beaucoup même d'élèves refusent de les accompagner. Hein. Ils pensent que c'est une maladie contagieuse, ils ne veulent pas. Il y a même des parents qui disent que leurs enfants ne sont pas venus à l'école pour apprendre ou bien dicter un élève non-voyant. Voilà, ils pensent que tout ça là, c'est pour mettre leur enfant en retard. Et même des enseignants refusent également de prendre l'enfant dans leur classe. Quand les fournitures viennent, nous voyons que des petits formats qui sont là. Voilà, ce qui veut dire que nos enfants ne sont pas pris en compte. Alors que ce sont des enfants de la même localité.
Selon les autorités en charge de l'éducation de la province, des actions doivent être menées pour répondre aux engagements pris par l'État sur l'éducation inclusive. De même, la formation des enseignants s'accompagne de sensibilisation pour répondre aux exigences de l'éducation inclusive, explique Mamadou Bakouan, agent en service à la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Boulkiemdé.
Pour une inclusion, pour l'inclusion effective dans des enfants avec handicap, nous avons aussi la dimension sensibilisation pour éradiquer les barrières sociales. Nous avons aussi les lois officielles telles que la loi 010 ADP signée effectivement en 2010. Voilà. Donc c'était une loi aussi qui a été votée par l'Assemblée des députés du peuple à son temps. Et pour au profit donc des personnes vivant avec handicap. Et donc il faut faire vulgariser effectivement cette loi-là. Et il y a aussi les instruments juridiques internationaux et qu'il faut mettre à profit. Voilà. Donc c'est tout un travail vraiment de sensibilisation qu'il faut vraiment nous associons à la formation donc des enseignants.
L'accès à l'éducation demeure un problème pour les enfants en situation de handicap au Burkina Faso. Au-delà de la formation des enseignants, l'éveil de la conscience sociétale par rapport au handicap et aux droits des enfants handicapés à l'éducation devrait être une priorité afin d'instaurer une école et une société véritablement inclusive pour tous, estiment de nombreux observateurs.
Pour savoir davantage sur cette forme d'éducation sans discrimination, Issouf Diallo a rencontré Mamoudou Bakouan. Il est agent de service à la Direction nationale de l'éducation inclusive dans la région du Centre-Ouest.
Je suis M. Bakouan Mamourou, agent service donc de la promotion de l'éducation inclusive, éducation des filles du genre, donc la DPPNF, donc du Boulkiamd.
D'accord. Parlant de l'éducation inclusive, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objectif de l'éducation inclusive?
C'est une dynamique qui tend à promouvoir effectivement la diversité donc, des apprenants. Donc c'est une approche donc, qui tient compte donc, de la diversité des apprenants. Tu prends en compte tous les enfants dans le système éducatif en tenant compte effectivement de leurs spécificités. Et notamment les enfants porteurs de handicap, les enfants vulnérables, les enfants de la rue, tous les orphelins, etc. Mais nous avons une priorité avec les enfants vivant avec handicap. Donc, ensemble, avec les enfants normaux, les enfants handicapés apprennent ce que les autres apprennent, donc ensemble dans la même classe et pour vraiment étudier ensemble.
Mais est-ce qu'il y a des avantages pour ces enfants, comme on aime le dire souvent avec les filles, la discrimination positive?
Je ne pense pas qu'on puisse parler de faveur. C'est une question de droit plutôt. Voilà, parce qu'il suffit simplement d'apporter des besoins spécifiques pour leur permettre, par exemple, en termes de mobilité, voilà, en termes d'appareillage, de prothèses, pour leur permettre de suivre comme les autres. Sinon, bon, je ne peux pas parler de faveur, il n'y a pas de faveur dans ça. C'est une question de droit. Voilà.
Allô, docteur?
Aujourd'hui, nous parlons du paracétamol, notamment de comment prendre ce produit pour guérir. La réponse avec le docteur Abdallah Ouedraogo.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Nous allons aborder un produit communément appelé paracétamol. Dites-nous, ce produit pharmaceutique, qu'est-ce que c'est?
C'est un médicament qui est un antipyrétique. Ça veut dire qu'il lutte contre la fièvre et c'est un antalgique qui lutte contre la douleur. Donc, en termes simples, c'est comme ça.
À quel moment est-il conseillé de prendre un paracétamol?
Comme je le disais tout de suite, c'est un médicament qui est utilisé pour casser la fièvre. Ça veut dire que lorsqu'on a une maladie qui peut entraîner une fièvre derrière, comme le palu ou d'autres maladies qui entraînent la fièvre, c'est important qu'on prenne ce médicament-là pour pouvoir casser la fièvre. Et dans d'autres situations où on a des douleurs, que ce soit lors d'un traumatisme ou d'une maladie qui entraîne des douleurs, le paracétamol peut être utilisé à raison d'antalgique, ça veut dire contre la douleur. Donc, voici les situations où ce médicament peut être utilisé.
Est-ce qu'il y a-t-il une fréquence conseillée? Est-ce que c'est permis de prendre des paracétamol tous les jours?
Oui, il y a une fréquence, il y a une dose à ne pas dépasser. La dose à ne pas dépasser est de 4 grammes par 24 heures. Vous allez voir que souvent, on dit aux gens de prendre 1 gramme de paracétamol chaque 6 heures. Ça veut dire que si on prend, ça va faire 4 grammes par 24 heures. Et moi, on prend 1 gramme chaque 8 heures. Vous allez voir que ça fait moins de 4 grammes. Ça veut dire au-delà de 4 grammes déjà, le médicament n'est pas bon pour le corps humain et la prise ne doit pas excéder un certain nombre de temps parce que c'est comme un surdosage. Lorsqu'on dépasse les 4 grammes, c'est un surdosage. Lorsqu'on prend au long cours aussi, c'est un surdosage aussi pour le corps humain.
Quels sont les effets indésirables du paracétamol sur le corps et plus précisément sur les organes en cas de prise excessive?
En cas de prise excessive, il faut savoir que le paracétamol est un médicament qui est éliminé par le foie. Et lorsque nous avons une prise excessive, forcément le foie est mis à rude épreuve. Vous allez voir souvent qu'il y a des pathologies, des lésions hépatiques que la prise excessive de paracétamol peut entraîner. Et souvent, nous avons même des lésions qui sont irréversibles, dont on ne peut plus corriger. Et la prise de paracétamol exagérée aussi peut entraîner aussi des troubles cardiaques, selon certaines études. Ça peut aussi entraîner des troubles digestifs et même des hémorragies digestives à un certain moment. Donc, sa prise au long cours ou sa prise surdosée peut entraîner et des problèmes cardiaques et des problèmes hépatiques et même des hémorragies digestives.
Choupon Pomme, un nouveau titre de l'artiste ivoirien Rémi Edan. C'est avec cette chanson que l'on se dit au revoir. Prenez soin de vous et des autres. À demain pour un autre numéro de votre émission Yafa Soir.
Tu m'as dit quoi qu'il arrive, tu resteras ma choupon-pom. Tu resterais ton choupin-pim. Et qu'on finira tous les deux, baby. Et je ferai mon possible pour que tu restes ma choupon-pom. Tu resterais ton choupin-pim. Et qu'on finisse tous les deux. T'es une femme d'exception, ouais. Je t'ai connue et je ne regrette rien. Tu me donnes tant de frissons, belle. Par ton respect et ta beauté naturelle. J'aime quand tu bouges, j'aime quand tu me prouves par A plus B que je suis ton amour. Même si souvent tu me rends fou. Aïe, aïe, aïe. Je souris à chaque fois que tu me